BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité économique du jour et cette grande prudence sur les marchés financiers à quelques heures de la réunion de la Banque Centrale Européenne. La BCE qui s'apprête à remonter ses taux pour la première fois en 3 ans face au retour de la menace inflationniste liée à la guerre au Moyen-Orient. Sur place, justement, les bombardements sont poursuivis ces dernières heures entre Américains et Iraniens. La diplomatie iranienne considère même ce midi que le cessez-le-feu est désormais pratiquement dénué de sens. Pour autant, d'autres sources à Téhéran citées par Reuters parlent aussi d'une intensification des efforts avec les États-Unis pour parvenir à un accord de paix. Un compromis politique aurait même déjà été trouvé. C'est visiblement ces derniers éléments que semblent retenir les marchés, en tout cas côté pétrole, puisque le baril de Brent redescend ce midi autour des 92 $. Et puis dans le reste de l'actualité économique, notez que le taux de rémunération du livret A devrait bel et bien augmenter en juillet. Poussé par l'inflation, il pourrait passer d'1,5 à 1,8 selon les déclarations du patron de la Caisse des dépôts ce matin, qui rappelle tout de même que c'est à Bercy que revient la décision finale. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier, qui nous concerne, usagers de cet immobilier, des témoignages terrain de vos métiers dans le cœur de ce pro de l'IMO. Et aujourd'hui, attention, on démolit des murs porteurs. Oui, oui, c'est possible. Alors c'est possible, mais il y a quelques contraintes et on verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Un débat qui s'annonce plutôt musclé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on va parler du marché locatif et en particulier d'un bail très particulier. Le bail Code civil. Il pullule sur les sites d'annonces immobilières. Est-ce qu'il est légal ? Dans quel cas ? Dans quel cas il ne l'est pas ? Est-ce que c'est le moyen de détourner l'encadrement des loyers ? On essaiera de répondre à toutes ces questions avec beaucoup de nuances dans le débat du jour. Mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Joachim Le Flamand, responsable de l'agence Silico Travaux de Chartres. Bonjour Joachim.
Bonjour Marie.
Je le disais, on va démolir un mur porteur aujourd'hui.
Mais oui, c'est ce qu'on fait assez souvent chez Silico Travaux. Et donc le projet que je voulais vous présenter a été terminé du coup la meilleure des façons. Mais il a fallu en effet faire pas mal de conceptions et anticiper les choses.
Bah alors, le truc, c'est qu'on a tous eu l'envie de taper sur les murs à chaque fois qu'on fait une visite en disant « Est-ce que je peux le casser, celui-là » Oui, c'est possible, mais enfin, c'est pas aussi simple que ça. Je plaisantais en disant « Si c'est possible », en fait, ça a un coût. Il faut quand même mesurer ce que ça va me coûter à la fin. Et parfois, détruire un mur, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Voilà, ça peut aller jusque-là. Généralement, sur des murs porteurs, déjà, oui, la première chose qu'on fait, c'est on voit si c'est pas juste une cloison. Donc, c'est la première chose qu'on nous demande. Et ensuite, voilà, on essaye de voir quelles sont les contraintes. Ça peut être aussi dans les réseaux. Donc, faut faire attention à l'eau, à l'électricité, au gaz et aussi au niveau de la structure. Donc, ça dépend souvent de la largeur. Parce que sur un mur porteur de 2-3 mètres, il n'y a pas forcément de gêne, c'est toujours assez facile, on va dire, en tout cas sur notre quotidien. Et après, voilà, quand on arrive sur des ouvertures de 7-8 mètres, là, il y a une étude de structure qui est beaucoup plus complexe. Et on peut arriver, oui, sur des dizaines de milliers d'euros, rien que pour changer, pour l'ouvrir, tronçonner le tout et aller mettre un IPN ou un HED.
Non, mais là, par exemple, vous nous avez donné un exemple. Moi, ça m'a fait halluciner, pardon, entre nous. Hein. 9 000 € de maçonnerie, 2 700 € de plomberie, 2 400 € d'électricité, 4 900 € de carrelage, 1 900 € de peinture. Moi, franchement, vous me montrez cette facture-là, je renonce, hein, je garde le mur.
Ça dépend ce qu'on entend comme projet, parce que là, en fait, il s'agissait de l'ouverture d'une cuisine complète, et donc derrière, on a la chambre. Donc voilà, là, ça comprend vraiment toute la réflexion et le rafraîchissement. Donc 9 000 € de maçonnerie en comptant le bureau d'études, donc l'étude de structure, savoir s'il faut enlever, par exemple, la cheminée, et derrière, ouvrir le mur. Voilà, c'est vraiment tout compris TTC. Mais derrière, voilà, il y a un peu de modification de plomberie électricité, de carrelage au sol, parce qu'il a fallu changer le revêtement de sol de la chambre également. Donc on parle quand même de plus de 20 mètres carrés. Et derrière, le rafraîchissement en peinture. Donc voilà, c'est tous les travaux qui s'ensuivent derrière, tous les travaux induits finalement. Parce qu'évidemment, quand on casse le mur porteur, la poussière, elle tombe. Et elle, même une fois qu'on est parti, elle continue de tomber pendant un mois. Donc il y a vraiment des gros travaux derrière.
Juste Joachim, là, on parle, votre exemple spécifique, on parle d'une maison. C'est ça, hein ? J'imagine qu'en copro, c'est plus complexe.
Oui, parce que forcément, voilà, en copro, bah, il y a les LPV d'AG, il faut tout anticiper, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc là, on va aller chercher, en fait, à convaincre tout le monde pourquoi c'est bien, pourquoi faire ça. Et donc après, on n'est pas les seuls décisionnaires.
Et on est d'accord qu'on n'est pas obligé d'en arriver à tout détruire. On peut faire aussi des simples ouvertures, j'ai envie de dire. Et ça, pour le coup, les coûts sont peut-être moins élevés parce que j'entends vos arguments. Hein, et pour les gens qui ont les moyens, bah, tant mieux s'ils veulent agrandir leur cuisine. Là, je crois que c'était le cas. En l'occurrence, visiblement, on avait une grande cuisinière. Mais voilà, le sujet, il est qu'on peut aussi ouvrir partiellement un mur porteur et que les coûts sont pas les mêmes à la fin. On est d'accord.
Absolument. Je dirais pas que c'est linéaire par rapport à la largeur de la poutre à mettre, mais on peut quand même s'y retrouver. Voilà. Souvent, en fait, les gens, par exemple, quand on fait une extension, ils nous demandent d'ouvrir juste, en fait, de la largeur de la baie vitrée qui est déjà existante. Donc là, bah, c'est facile. Les coûts sont beaucoup moindres. Et voilà, il suffit juste de laisser des poteaux, en fait, de chaque côté de 40 cm, voire un jeu de platine. Donc tout est possible. Voilà. Tout dépend, en fait, de la largeur de la poutre et ce qu'il y a déjà existant et puis de ce que souhaite, en fait, le client à la fin.
Bon, en tout cas, c'est quand même de bons conseils que vous nous donnez à toutes celles et ceux, en tout cas, qui sont en mesure de pouvoir s'agrandir chez eux en cassant des murs porteurs, en faisant des ouvertures. Oui, c'est possible. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne suffit pas de toquer dans le mur. Vous pouvez aussi appeler Joachim. Joachim Leflamand, responsable de l'agence Illico Travaux de Chartres. Merci d'avoir été avec nous. Si, comme Joachim, vous avez des témoignages terrain de vos métiers, des conseils, des coups de cœur, des coups de gueule, vous n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et une fois n'est pas coutume, c'est un politique qui est notamment à mes côtés aujourd'hui. Jacques Baudrier, adjoint au maire de Paris, chargé du logement, de la rénovation thermique, de l'encadrement des loyers et de la défense de Marie Cœur de Roy et des locataires. Bonjour Jacques Baudrier.
Bonjour.
Et à mes côtés également, Alexandre Fitoussi. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, le patron de Beanstalk. Bonjour Alexandre.
Bonjour Marie.
Alors pourquoi ce débat ? Bah parce qu'on a eu une petite vidéo, alors je sais plus si c'est TikTok, je vais encore passer pour une vieille, hein. Je sais plus si c'est TikTok ou non, c'est Instagram, du maire de Paris, qui s'attaque au beau code civil, alors on va parler de ce qu'est le bail code civil, hein, mais qui cite nommément votre entreprise Alexandre Beanstalk. Alors d'abord, messieurs, parce qu'on a décidé d'apaiser les tensions, on va déjà faire un focus sur ce que c'est que le bail code civil et pourquoi il cristallise un peu les tensions entre les pro-encadrements et les anti-encadrements de loyer. Pourquoi ce bail code civil retient notre attention aujourd'hui ? Peut-être, Alexandre, me dire ce que c'est que le bail code civil.
Alors, le bail code civil, c'est une disposition qui, je pense que vous le savez, vous partagez l'opinion, est tout à fait légale, qui permet de louer dans des circonstances très spécifiques, à savoir les logements de fonction, les résidences secondaires et quelques autres cas où globalement vous n'utilisez pas le bien comme votre résidence principale. D'ailleurs, quand on fait signer un bail civil chez Beanstalk, on s'assure que le locataire a une résidence principale ailleurs et nous signe une décharge comme quoi il est bien en occupation secondaire de ce logement. Donc c'est un bail qui est tout à fait légal, le propriétaire a tout à fait le droit de le faire. En revanche, ce qui devient illégal, c'est quand certaines agences utilise à mauvais escient, loue à des locataires qui ne sont pas vraiment en résidence secondaire dans le logement, ce type de beau.
Et pourquoi ils le choisiraient ? Parce que ce bail code civil permet d'échapper à tout encadrement de loyer. C'est à peu près ça l'idée, Jacques Baudrier.
Tout à fait. Et notre problème en tant que responsable public, et c'est pour ça qu'Emmanuel Grégoire est intervenu, c'est qu'on voit actuellement pulluler sur les désannonces en bail code civil, alors que ça devrait être extrêmement minoritaire et dont on en a une proportion très, très importante depuis quelques mois. Et donc, forcément avec une grande partie de ces locations qui deviendront illégales et pour lesquelles d'ailleurs nous avons alerté, Emmanuel Grégoire le premier, toute la direction générale de la répression des fraudes afin que ce soit contrôlé. Donc le problème, le nombre d'annonces qui arrivent est en complet décalage avec l'objet qui devrait être beaucoup plus restreint du bail code civil. C'est pour ça que nous sommes intervenus. Et si Emmanuel Grégoire a fait une vidéo et a cité votre entreprise, c'est parce que la publicité qui était sur votre site marquant Beanstalk, l'agence spécialisée en bail civil, était, de notre point de vue, une forme de provocation. Je constate que depuis que la vidéo a été mise en ligne, vous avez retiré cette publicité sur votre site. Donc, en tout cas, ça a eu un effet et c'était un message à l'ensemble des acteurs et des agences qui proposent ces baux que voilà, nous alerterons systématiquement la direction l'État afin de
la DGCCRF
pour contrôler la légalité. Et même de notre point de vue, on sent le fait qu'il va y avoir de plus en plus de détournements et d'illégaux. Notre volonté, c'est de faire évoluer la loi et donc, de, par exemple, d'interdire le bail code civil pour les logements en zone tendue ou de les soumettre de façon définitive à l'encadrement des loyers pour éviter ces dérives.
Alors, juste pour préciser, la raison pour laquelle on a enlevé la pub en question, c'est parce que ça nous empêche pas de faire des beaux codes civils, on en fait encore. C'est très rare, très très rare, parce qu'en fait, c'est difficile d'en trouver des locataires qui vérifient véritablement.
Qui fitent vraiment avec la loi.
Voilà,
en fait.
Si on veut vraiment respecter la loi, il faut s'attendre à de la vacance locative, il faut s'attendre à ce que ça prenne du temps. On en fait encore, c'est juste que par respect pour le travail qui est fait à la mairie et parce qu'on est dans une logique de dialogue, il n'était pas question de continuer à irriter qui que ce soit. En revanche, on se dit qu'on est spécialisé, pourquoi ? Justement parce qu'on s'est donné du mal pour essayer de bien le faire. C'est pour ça qu'on dit spécialisé. C'est parce que contrairement à beaucoup d'agences qui peuvent utiliser ça sans
vous parlez carrément de concurrence déloyale.
Moi,
Alexandre,
à l'époque, pendant longtemps, on a hésité à parler de concurrence déloyale, à dénoncer nous. On a réfléchi avec nos avocats à le faire parce qu'on a des agences qui allaient voir les bailleurs en leur disant des phrases qui ne sont pas correctes et qui probablement débouchaient sur des baux qui étaient illégalement code civil. Et nous, on s'est donné du mal pour faire les choses bien. D'ailleurs, c'est pour ça que est-ce que vous savez combien on a signé des baux code civil chez Binstock?
J'ai vendu la mèche avant l'antenne. 7.
On en a signé 7. Ouais. Vous voyez, pour nous, c'est tout à fait anecdotique. Mais pourquoi c'est anecdotique? Moi, ça fait plusieurs années que les bailleurs, ils me le réclament. Mais on le fait pas. Le bailleur, il a le droit de louer comme il souhaite, comme il l'entend. Mais je le faisais pas parce que je leur disais, il n'y a pas la demande. À un moment, vous allez avoir des problèmes de vacances locatives. Bon, maintenant, pour revenir sur le projet de loi. Alors, là, moi, je suis pas politique. J'entends la logique qui est derrière de se dire, attendez, si on met un encadrement, qu'il y a des gens qui contournent grâce à un autre mécanique, faut corriger l'autre mécanique. Faut entendre quand même que le bail code civil existe pour une raison. Quand un Américain ou un Qatari qui gagne plusieurs centaines de milliers de dollars vient à Paris pour une raison secondaire, est-ce qu'on a vraiment envie que ce soit au propriétaire parisien qui possède le logement de réduire le loyer? Est-ce qu'on a envie de lui faire ce cadeau? La résidence secondaire, le bail code civil, c'est très encadré et le bail code civil, il peut répondre. Mais encore une fois, contrairement à ce que beaucoup de propriétaires pensent, c'est pas du tout une solution magique. Le bail code civil, c'est très difficile d'avoir le bon locataire. Et si le locataire veut requalifier, il requalifiera.
C'est ce que j'allais.
Faut pas faire le malin. Et d'ailleurs, j'en espère que les propriétaires vont entendre le message de faites les choses bien parce que c'est hyper simple pour un locataire de requalifier.
Mais justement, Jacques Baudry, j'ai envie de vous dire, là, en l'occurrence, Alexandre nous dit que lui, techniquement, il respecte mot pour mot la règle et la loi, et donc il fait les sept beaux codes civils qu'il a pu signer, a priori, sont respectueux des règles. Ma question, c'est comment ça se passe pour tous les autres? Parce qu'on va pas se cacher derrière nos petits doigts, et on en a parlé avec Alexandre, il y en a qui détournent le bail code civil.
Il consulte le site de la mairie de Paris, on leur donnera toutes les informations sur comment saisir la DGCCRF, ils nous le signalent. Mon adresse, jacques.baudrier@paris.fr.
On a le 06 qui s'affiche aussi.
Voilà. Franchement, qui me le signale à moi aussi.
On interviendra auprès de l'État, auprès de la DGCCRF, qui s'est engagée à une campagne nationale, qui reconnaît qu'il y a un problème massif. Ouais. Donc c'est pour ça que nous, la réaction à la vidéo d'Emmanuel Grégoire, qui a réagi à votre pub qui était un peu provocatrice, que vous avez enlevée, tant mieux, c'est parfait. Eh bien, c'est aussi pour alerter et pour que les agences immobilières qui massivement ne respectent pas la loi et qui se mettent dans une situation à la limite de la légalité, arrêtent ces processus. Mais nous, c'est le bail code civil, je dirais que c'est la nouvelle méthode de détournement après le co-living, après le complément de loyer abusif. Donc vous voyez, c'est une nouvelle méthode de détournement. Notre sujet, c'est de faire voter une loi qui pérennise l'encadrement des loyers et qui évite tous les détournements, qui évite le complément de loyer qui ne peut être contesté que pendant une période de 3 mois, ce qui est beaucoup trop court pour le faire respecter. Et le principal problème pour nous, c'est le détournement du complément de loyer avec 300 euros de plus de loyer pour cause de vue exceptionnelle.
Sur le local poubelle au rez-de-chaussée.
Sur le local poubelle. On en a une, un complément de loyer parce que proche d'une station de métro. Ouais. À Paris, c'était là.
Ou alors,
j'ai un complément de loyer de 250 euros pour lave-linge. Donc, vous voyez.
Sur du meublé.
Et on arrive. Et par exemple, une de vos annonces en ligne de Binstock, c'est 14 mètres carrés, 980 euros aujourd'hui. Voilà, on arrive à des loyers qui sont comme ça, se dire avec d'autres compléments de loyers énormes. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème. Donc nous, notre but, c'est de faire voter une loi qui empêche à la fois ces compléments de loyers abusifs, qui sont parfois encore malheureusement légaux, qui empêchent le co-living à 1 000 euros les 10 mètres carrés, et qui empêchent le détournement du bail code civil. Donc c'est on veut faire évoluer la législation, on va y arriver, on est arrivé à faire évoluer la loi contre Airbnb illégaux, on l'a obtenu il y a un an et demi, on espère bien y arriver pour pérenniser un encadrement des loyers vraiment efficace.
Alexandre, quand Jacques Baudrier cite une annonce...
Ce que j'allais vous dire, cette annonce est très probablement un bail code civil, et je peux vous annoncer tout de suite, on ne trouvera pas de locataire. C'est un propriétaire qui a dû nous demander ça. Nous, on respecte sa demande, c'est notre rôle. On ne trouvera probablement. On a, nous, aujourd'hui, plus de 80% des annonces qu'on a en ligne sont des baux code civil, puisqu'on ne trouve pas de locataire. Dès que c'est en résidence principale, donc avec un complément de loyer raisonnable.
Ça part tout de suite.
Tout de suite. Donc, vous voyez, c'est aussi qu'on doit respecter. C'est une option qui est aujourd'hui à la disposition du propriétaire. Moi, vous le savez, on en a parlé juste avant. Je pense qu'il faut éviter toute stratégie qui réduit l'offre de logement. Et je pense qu'il faut éviter toute stratégie qui confronte les propriétaires et les locataires. Je pense que tout le monde peut travailler ensemble. Je pense qu'il y a, un intérêt à ce que les bailleurs gagnent de l'argent, trouvent de la rentabilité dans l'investissement locatif à Paris, dans le fait de rénover les logements. Je pense que pour arriver au même résultat que ce que vous espérez avec l'encadrement des loyers, à savoir faire baisser les loyers pour les plus démunis, il y a d'autres stratégies qui seront probablement plus fonctionnelles, plus ciblées. Aujourd'hui, nous, on le voit, quand on a 400 demandes pour un studio, à votre avis, le propriétaire, il prend le dossier de qui ? De celui qui s'en fichait d'économiser de 70 euros par mois. Celui pour qui ça ne change rien. Et si demain, moi j'entends beaucoup, ça n'a pas d'impact sur l'offre. Alors moi je parle toute la journée à des propriétaires qui ne veulent pas acheter, tout de suite, je vous le dis. Et les gens qui disent, mais moi si demain...
Mais que parce qu'il y a l'encadrement des loyers, Alexandre ?
Oui, l'encadrement des loyers avant tout.
Alors, c'est pas surtout la fiscalité ?
Alors non, je vous garantis que c'est l'encadrement des loyers. La fiscalité, en l'occurrence, elle est favorable. Mais effectivement, on en parlait hier, en location meublée en tout cas. On en parlait, il y a... probablement des mécaniques liées à la fiscalité qui pourraient permettre à l'État d'investir dans faire baisser les loyers, mais je pense qu'il faut que ce soit mieux ciblé. Aujourd'hui, il n'y a plus de logements. C'est-à-dire que même si on dit les loyers n'ont pas augmenté, oui, mais il n'y a pas de logements. Donc le loyer, il a beau pas être cher, si le logement n'existe pas, on va le loger personne.
Alors pourquoi il n'y a pas de logements ? Le parc locatif privé, il baisse depuis 20 ans de 8000 logements par an en moyenne. Et d'ailleurs, on applique vraiment l'encadrement de loyer que depuis 3 ans.
Ouais.
Donc il baissait pareil avant. Donc la corrélation est de zéro. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un développement massif à Paris, comme dans toutes les zones très attractives, des résidences secondaires et de logements vacants. Ouais. Aujourd'hui, il y a 300 000 logements vacants en résidences secondaires à Paris. On a 28% du parc privé, ça augmente de 7 000 par an, et c'est ça qui fait baisser le parc locatif privé. Donc notre première priorité pour redévelopper le parc locatif privé, nous, c'est d'avoir une fiscalité dissuasive sur les résidences secondaires et les logements vacants. On a gagné à l'Assemblée, au mois de février, le doublement de la taxe sur les logements vacants, après une longue bataille. Notre but, c'est d'obtenir, c'est un peu technique, mais la décorrélation de la taxe foncière à la taxe de résidence secondaire.
Non, mais en aujourd'hui, gros, ça veut dire que si, par exemple, moi, je décide d'augmenter la taxe sur les résidences secondaires, je vais aussi augmenter la taxe foncière.
Aujourd'hui, donc nous, on ne veut pas augmenter la taxe foncière, mais on veut augmenter la taxe sur résidence secondaire. Donc, ce que nous demandons au gouvernement, à Monsieur Lecornu, Monsieur Jeanbrun, c'est de nous laisser ce droit. Et nous, on pense qu'à Paris, ça pourrait permettre de remettre des dizaines de milliers de logements sur le marché et sur l'offre locative. Et c'est ça qui permettra de remettre de l'offre locative. Et donc ça, c'est en mesure. Je pense qu'à l'échelle du pays, c'est pas loin de 1 million de logements qui pourraient revenir sur le marché et d'être soit achetés par des propriétaires occupants, soit sur le marché locatif privé. Et c'est une mesure qui coûte 0 euro et qui serait bénéficiaire pour tous ceux qui veulent habiter propriétaire comme locataire.
Et ce qui est fou, c'est qu'Alexandre est d'accord avec
vous. Alors, deux choses. Donc, comme je vous le disais avant, comme je vous le disais, ma philosophie, c'est je veux que les Parisiens puissent habiter à Paris. Je veux que les Lyonnais puissent habiter à Lyon. Donc, ce que je veux avant tout,
et pour
c'est
les autres, non.
Alors, évidemment, vous avez compris. Bon, les autres villes, je se débrouille. Donc, moi, ce que je veux, c'est juste éviter toutes les démarches qui limitent l'offre. Mais évidemment, dès qu'une démarche, un dispositif augmente l'offre, comme ça pourrait être le cas ici, j'y suis complètement favorable. C'est ce qui s'est passé avec la lutte contre Airbnb. Prendre des appartements qui auraient dû être des résidences secondaires, les louer à des touristes, c'est inadmissible dans une ville comme Paris avec la tension locative qu'on y a. Donc moi, je partage complètement ça. Et un deuxième point, je pense que, on en parlait rapidement, mais je pense que dans la démarche de la mairie de Paris, il y a quelque chose qui changerait tout et qui, aujourd'hui, n'est pas envisagé. C'est de tenir un discours qui serait autant pro-locataire que pro-bailleur. Par exemple, vous parlez d'augmenter la taxe secondaire pour ne pas avoir augmenté la taxe foncière. Déjà, c'est un très bon message pour les bailleurs. Imaginez que vous alliez un tout petit peu plus loin et que vous disiez, on va augmenter la taxe sur résidence secondaire de 10%, je donne des ordres de grandeur, et grâce à ça, on va pouvoir baisser la taxe foncière de 5%. Ça équilibre les comptes. Le message envoyé, il change tout. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, c'est qu'on sente une logique de confrontation. Et vous avez dans votre titre la défense des locataires. Si vous ajoutiez la défense des propriétaires à ça, qui pourrait vous jeter la pierre. Par contre, le défenseur des résidences secondaires, lui, il est bien à la mairie de Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Les logements vacants, 300 000 logements, on les remet, on a réglé tous les problèmes d'un coup. Hein.
Ah bah, et ah bah moi, mon premier but, c'est ça.
Mais du coup, Jacques Baudrier, admettons que vous alliez au bout, effectivement, qu'on récupère tous les logements vacants, qu'on les remet sur le marché de la location, et on arrête l'encadrement des loyers?
En tout cas, il y aurait 500 000 Parisiens de plus, 200 000 logements de plus sur le marché. Après, le loyer se stabiliserait. On verrait, en tout cas, l'encadrement de loyer. De notre point de vue, au jour d'aujourd'hui, les locataires paient des loyers très importants de l'encadrement de loyer. Ouais. Malgré que le système soit imparfait, ça a permis de limiter de 5% la hausse des loyers. Ça a permis d'effarber, c'est de limiter la hausse.
Ça a fait
gagner 1 000 euros en moyenne par an à chaque locataire parisien. Donc, c'est quand même très important. Nous, notre but, c'est d'abord de remettre des biens sur le marché. Alors, la taxe foncière à Paris, c'est la plus basse de toutes les grandes villes de France.
C'est vrai. C'est deux pas, fois... en valeur ampselle, pas en valeur absolue, oui, mais par rapport à la valeur locative.
Par rapport à la valeur locative, c'est
mais
deux fois
moins. Les valeurs cadastrales sont les plus élevées de France.
Oui, mais,
c'est plus vrai.
Mais en tout cas, c'est encore des niveaux très limités. L'État nous a pris, lors du budget 2025, 270 millions d'euros au budget de la ville de Paris. Donc, avec l'État, vous voyez, on a quand même des sujets budgétaires très conséquents. En tout cas, notre objectif, nous, mais comme ça a été fait en Belgique, par exemple, à Bruxelles, il y a 4% de logements inoccupés. À Paris, sur le parc privé, c'est 28%. Donc, il y a au Canada,
alors
en
c'est,
Belgique,
c'est
un peu
partout. C'est inoccupé ou sous-occupé, Jacques Baudrier?
Non, il dit inoccupé, c'est soit des résidences secondaires, soit des logements vacants. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une résidence secondaire qu'un logement vacant,
bien sûr.
parce qu'il suffit de cocher une croix dans GNBI. Mais voilà, donc nous, notre but numéro un, c'est remettre des biens sur le marché. Et j'insiste, on a une mesure qui coûte 0 euro à quiconque, et qui est portée par l'association contre le logement vacant, dont la ville de Paris fait partie, qui est transpartisane. Il y a des élus de toute la France, y compris de droite. Et 95% des villes qui ont mis en place la taxe sur les résidences secondaires, qui a été créée suite à un livre que j'ai écrit avec mon collègue communiste comme moi, Yann Brossa, eh bien, sont des maires de droite.
Ouais,
donc cette taxe, c'est une taxe communiste, c'est vrai. Elle est appliquée que par des maires de droite et un peu par des municipalités de gauche. Donc nous, ce qu'on demande...
Super piste.
Ce qu'on demande, c'est, et ça réglerait pas toute la crise de l'immobilier, mais je peux vous garantir qu'à Paris, ça remettrait à terme 100 000 logements sur le marché à tous les coups, très rapidement, et ça ferait plein d'annonces que des agences comme Beanstalk pourraient mettre à louer à des loyers plus attractifs. Ben, ça serait parfait.
Et ça
coûte zéro. Donc, je ne comprends toujours pas pourquoi le gouvernement n'a pas accepté, alors que c'est porté par une association transpartisane. Vous avez des professionnels de l'immobilier comme monsieur qui sont d'accord avec nous. Pourquoi? Et ça coûte 0 euro d'argent public. Pourquoi on ne fait pas ça?
Je dis amen à ça. Voilà, la logique de créer du logement sans que ça coûte de l'argent à l'État, qui remet des logements pour les locataires, pour qu'ils se louent, pour que ce soit, les loyers baissent, etc. On est complètement aligné sur cette logique. Et je pense que c'est là le point clé, c'est qu'il y a forcément des mesures qui régleraient au moins partiellement le problème, qui pourraient réunir droite, gauche. Voilà, donnez-moi la carte du parti communiste, avec plaisir. Je la prends avec plaisir. Si la logique, c'est transpartisan pour créer du logement, on a le même objectif.
J'ai une carte.
Alors, Jacques Baudrier, pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, Jacques Baudrier est en train de sortir alors sa pièce d'identité visiblement, mais aussi sa carte. Mais quand même, d'un mot quand même, Alexandre, parce que on s'est retrouvé au démarrage sur un conflit parce que nommément, effectivement, quand on cite votre boîte, bah vous le prenez perso et c'est normal parce que vous dites, moi j'essaie de faire les choses correctement, machin. Et en fait, finalement, vous arrivez à vous mettre d'accord. Il y a quand même un sujet qui cristallise les tensions et c'est pour ça que je demandais à Jacques Baudrier si, quand bien même, on remet tous ces logements vacants sur le marché, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'encadrement? Vous êtes quand même opposé à l'encadrement des loyers, Alexandre.
Moi, je suis pas opposé à ce que la charge des loyers baisse pour les plus démunis. Hein. Pas du tout opposé, bien au contraire.
Bah, vous faites comment alors?
Bah, justement, parce que je pense qu'on va pas résoudre la question maintenant, mais je pense qu'il y a plein de pistes. Je proposais qu'on se rencontre pour échanger. Je pense qu'il y a plein de pistes qui, encore une fois, n'opposeraient pas forcément les bailleurs et les locataires, qui permettraient pour les plus démunis, encore une fois, puisque moi, les plus démunis aujourd'hui, je les vois sortis du marché. Je les vois incapables de se loger parce que c'est les meilleurs dossiers qui passent, qui permettraient aux plus démunis de se loger à moindre frais. Mais pourquoi on va aider? Pourquoi on va aller prendre 200 euros à un propriétaire pour baisser le loyer d'un locataire qui aurait largement les moyens de les payer? Lui, il y a une erreur. Et pareil, pourquoi on traite de la même façon un bailleur qui aurait un bien, qui a fait un petit investissement, qui a mis beaucoup d'argent dedans pour qu'il fasse un gros effort, et un institutionnel qui aurait 2500 biens? Il y a probablement des pistes à étudier qui ne posent pas propriétaires et locataires.
En tout cas, aujourd'hui, il y a tout un tas de villes, y compris de gauche en France, qui n'appliquent pas l'encadrement de loyer, parce que simplement, le rapport du marché locatif fait que les loyers sont pas trop élevés et sont tout à fait accessibles. Ouais. J'ai échangé avec un de mes collègues adjoints d'une autre ville, là où le loyer dans le privé est à 12 euros du mètre carré.
Oh, j'y vais, c'est où? C'est où?
Je pense justement que j'ai pas envie d'y aller.
Mais voilà, mais c'est une ville bien loin de Paris.
Dans la Creuse, nous plutôt, y allons, notre réalisateur.
Plutôt dans le sud-ouest.
Non.
Voilà, donc, mais oui, donc ça, évidemment, eux, l'encadrement des loyers n'a pas leur priorité. Mais nous, on est dans une situation de tension locative où il faut essayer de modérer les hausses. C'est pour ça qu'on défend absolument l'encadrement des loyers. Le jour où on arrive à remettre 200 000 logements sur le marché à Paris, 300 000 à l'échelle de l'Île-de-France, qu'on arrive à transformer 500 000 mètres carrés de bureaux en logements, ce qui serait possible avec quelques petites évolutions législatives qu'on propose aussi au gouvernement. Voilà.
Mais vous êtes prêt à entendre le message aussi d'Alexandre qui dit est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre la défense des propriétaires bailleurs s'ils font bien leur job,
Il y a des dispositifs comme on va travailler sans doute à une garantie municipale des loyers pour certains publics. Notre but, clairement, nos adversaires, c'est les logements vides, les logements inoccupés, c'est les résidences secondaires, les logements vacants. Notre but, c'est qu'il y ait plus d'habitants à Paris, qu'ils soient propriétaires occupants et qu'ils soient locataires. Bien sûr, notre but aussi de développer beaucoup le logement social et le logement intermédiaire. On veut en faire 8000 de plus par an parce qu'on pense que c'est indispensable.
Ouais.
Mais le propriétaire bailleur n'est pas notre adversaire. Notre adversaire, c'est le propriétaire du logement vide, de la résidence secondaire et qui est bien souvent un multipropriétaire qui possède plus de 5 biens immobiliers. Donc, nous disons, il y a un peu de responsabilité sociétale. Si vous avez une résidence secondaire, vous venez une semaine par an pour aller au théâtre ou je ne sais quoi, vendez-le, louez-le, allez à l'hôtel et comme ça, vous ferez des heureux. Nos adversaires, c'est clairement pas les propriétaires bailleurs du tout. Nos adversaires, c'est les propriétaires de logements vides et de résidences secondaires.
Et du coup, je vous le dis, les propriétaires bailleurs, ce qui leur fait le plus peur aujourd'hui, le plus gros épouvantail, c'est l'encadrement des loyers. Donc, si on veut être cohérent avec la phrase que vous venez de dire, l'encadrement, il va falloir le nuancer. Et encore une fois, si on veut être cohérent, vous n'avez pas forcément envie d'être cohérent sur cette phrase-là, puisque je sais que c'est pas dans votre titre. Mais si ça devenait dans votre titre,
la défense.
Si ça rejoignait votre, non mais vous voyez, sans blague, ce que je veux dire, c'est que le bailleur aujourd'hui est très effrayé par l'encadrement des loyers. Il sent le message très contraignant de la part de la mairie de Paris, alors que finalement, ça concerne quasiment que les petites superficies.
Loyers n'ont pas baissé. Je le redis en tant que locataire à Paris, les loyers n'ont pas baissé avec l'encadrement.
On a contenu la hausse. Ouais. Voilà, ça a réduit un peu la hausse, ce qui est une très bonne chose en soi. Mais qui ça a coûté? Est-ce qu'on n'a pas perdu des logements?
Là, il y a le jingle de la fin de l'émission.
Ah mince, pardon.
On aurait dû continuer effectivement de la baisse des prix, puisque là, on accroît le rendement. C'est tout ce dont on parlait en réalité.
Nous, notre but, si on veut, ce qui fait augmenter les prix de l'immobilier à Paris, ce sont les acheteurs de résidences secondaires.
Et on y revient.
Et notre but, voilà. Nos ennemis, c'est les résidences secondaires. Clairement, ils sont ciblés.
Et on a quand même réussi à les remettre d'accord tous les deux. Et moi, je trouve ça hyper chouette. Merci Alexandre Fitoussi, cofondateur de Beanstalk, et Jacques Baudrier, adjoint au maire de Paris, chargé du logement, de la rénovation thermique, de l'encadrement des loyers, de la défense des locataires et peut-être bientôt des propriétaires bailleurs. Qui sait? Merci de nous avoir suivis dans les Experts de l'Immo tous les jours sur BFM Business.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.